Donc je t'ai chargé pour cette partie de conférence de retracer les itinéraires d'Eugène Morel dans les pays anglo-saxons. Et ça a été quelque chose d'assez complexe. Donc puisque nous parlions du visage d'Eugène Morel, j'ai retrouvé deux photos. C'est lui, je vous l'assure. Et cette photo dont l'image a été reprise pour la journée de conférence d'aujourd'hui en miroir inversé. Donc Eugène Morel a trouvé les sources du renouveau qu'il voulait impulser aux bibliothèques françaises dans les pays anglo-saxons, Royaume-Uni, États-Unis d'Amérique entre autres, car comme nous l'avons vu ce matin, l'Allemagne l'a aussi beaucoup inspiré. La découverte de l'établissement anglais, et là je le cite, la comparaison avec l'équivalent français, au grand désavantage de ceci, aurait décidé de son engagement résolu pour moderniser le système français en référence au modèle anglo-saxon. Il est particulièrement difficile de le suivre à travers ses différentes destinations, car le style avec lequel il a écrit son enthousiasme pour le fonctionnement de ses public libraries ne permet pas de différencier les voyages qu'il a véritablement effectués de ceux dont il a eu connaissance par d'autres sources. Alors là, pour que vous compreniez mieux, il y a deux prérequis indispensables. Le premier, c'est que library, c'est pas une librairie où on achète ses livres en Angleterre, comme vous le saviez pratiquement tous, mais une bibliothèque. Le second prérequis est que mon accent anglais est incurable, français, et que donc quand vous entendrez quelque chose qui ressemble à library, pensez que c'est une bibliothèque. Je m'en excuse d'avance. Pour illustrer cette difficulté, les exemples suivants sont tirés de la seconde édition du second volume de son livre, Bibliothèque, essai sur le développement des bibliothèques publiques et de la librairie dans les deux mondes, publié au Mercure de France en 1908, où il a consigné quelquefois sans aucune équivoque certains de ses déplacements, et je le cite, « J'ai choisi pour plus de détails la bibliothèque d'Édimbourg parce que je m'en suis servi. » Donc là, s'il ne ment pas, on est sûr qu'il y a été. Et on va faire comme si on était sûr qu'il y était allé. Ou encore, « J'en ai visité une douzaine à Londres. » D'autres fois, il cite clairement les sources de ces données, par exemple pour les statistiques de prêts des bibliothèques de Liverpool et de Birmingham. Je cite, « Aux chiffres donnés par Ogle, nous ajoutons en tableau quelques chiffres plus récents. Mais cela ne permet pas de savoir s'il y est allé ou non. Ce n'est pas parce qu'il cite un livre de statistiques qu'il n'y a pas été. De même, le doute persiste quand il écrit « J'ai sous les yeux les catalogues des librairies de May Hill et d'Underston, mais comment les a-t-il eus en sa possession ? Est-ce qu'il se les est procurés sur place ?» Alors je me suis aperçu qu'il était abonné à un certain nombre de catalogues de revues britanniques qu'il recevait régulièrement. Donc là, on n'a pas tellement de précisions sur ses voyages. Ses écrits ne donnent pas toujours la réponse. Donc reconstituer ses voyages à partir de ses seuls livres est très imprécis. Il a donc fallu chercher ailleurs, entre autres dans ses biographies, ce qui n'amène toujours pas plus de certitude. Donc j'ai également croisé cela avec un échange de mails que j'ai eu pendant toute l'année avec des bibliothécaires et des conservateurs de bibliothèques anglo-saxonnes. Et la principale certitude que j'ai pu avoir, c'est surtout des bibliothèques où il n'a pas été. Donc cet état de fait est particulièrement paradoxal car Eugène Morel est réputé pour aimer voyager. Et je cite un extrait de la librairie publique de 1910, « Les voyages, voilà une littérature très demandée, est honorable, sérieuse, mais s'il y en a une dangereuse, c'est bien celle-là. Je me suis rapetissé le monde de tous les pays où j'ai été, joint mes nerfs, loin des îles Lofoten, vers l'Écosse. Aussi, je vous propose d'essayer de suivre Eugène Morel à travers de ce qu'il est possible de reconstituer ses voyages, puis d'appréhender quelles sont les idées qu'il a puisées dans ces pays, et enfin de comprendre comment il a transmis cet héritage. » Dans un premier temps, je vous propose d'essayer de reconstituer ses voyages au Royaume-Uni. Jean-Pierre Seguin, dans son livre « Eugène Morel, 1869-1934 et la lecture publique, un prophète en son pays », qui a été publié à la BPI, Bibliothèque publique d'information de Paris, en 1993, indique que Eugène Morel a voyagé en Angleterre 3 ans après être entré à la Bibliothèque nationale, ce qui situe ce voyage en 1895, alors qu'il était âgé de 26 ans. Il préparait alors son certificat d'aptitude de bibliothécaire stagiaire, ayant suivi avec assiduité des cours à la Sorbonne et à l'École des Chartes. Il a été promu stagiaire commissionné en 1997, puis sous-bibliothécaire de 4e classe en 1909. Revenons donc en 1895. Quelques années après la publication de son dernier roman sur l'éducation chez Savine, dont Agnès vous a parlé, qui s'appelle « Les petits français », Eugène Morel ressentit la pression et les effets d'un travail et d'une activité intellectuelle trop intense, et il décida de prendre des vacances dans un pays sur lequel il avait beaucoup lu et beaucoup appris, particulièrement à travers la correspondance qu'il entretenait avec son frère, Frédéric Morel, son frère aîné, qui était à Londres pour étudier la sculpture. En fait, la famille Morel est une famille de bronziers, donc ils fabriquaient des bronzes pour les sculptures. Son père est un artisan du Marais renommé et assez aisé, et donc Frédéric, le frère aîné, s'est situé dans cette lignée. Donc Eugène Morel s'est rendu seul en Angleterre, et c'est ce que rappelle une lettre de Frédéric adressée à Eugène en 1884 et citée par Gaëtan Benoît. Donc son livre de Gaëtan Benoît, Pioneer of Public Library in France, qui a été édité de manière posthume chez Duluth en 2008. Alors, à travers cette lettre, on apprend que leur mère a encouragé Eugène à visiter Londres, car elle avait bénéficié pendant 14 ans d'une éducation anglo-saxonne, et elle-même et son frère, donc l'oncle des deux fils Morel, avaient contribué à fonder la colonie française installée là-bas. C'est pourquoi il a été enclin à visiter, et je le cite de nouveau, le vieux quartier français de l'avenue Saint-Martin, à 2 minutes de Trafalgar Square, où ses ancêtres avaient vécu et travaillé. Il avait également décidé de visiter des lieux culturels, galeries d'art et musées, et selon cette même lettre, il n'avait absolument pas prévu de visiter les bibliothèques publiques. Grâce à la météo anglaise, heureusement qu'il pleuvait et que ce n'était pas le fog, sinon on n'en aurait pas trouvé l'entrée, et selon les comptes rendus qu'Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS, a rédigé à partir du livre de Gaëtan Benoît, Eugène Morel a écrit, et on le retrouve dans la Public Library en page 26 de son livre, et je cite, « J'ai découvert pour mon compte la librairie publique il y a une quinzaine d'années, à Londres, un soir qu'il pleuvait. Celle où le hasard me fit me réfugier est située dans le vieux quartier français de Saint-Martin's Lane, à 2 pas de Trafalgar Square. Je fus un peu étonné de voir les gens lire des journaux debout et fort content d'y trouver le Figaro. » Remercions la météo anglaise. Donc voici, j'ai retrouvé quelques documents de la bibliothèque de Saint-Martin Lane, d'à l'époque où Eugène Morel y a été, donc une inauguration par le prince des Wales. Alors donc en haut il y a le programme de la manifestation d'inauguration. En haut à droite, une truelle qui était remise aux donateurs et aux gens qui ont posé la première pierre. Elle était en argent et celle, bien sûr, qui a été donnée au prince des Wales était en or. Et au-dessous, la cérémonie d'inauguration. Donc, le premier voyage à Londres d'Eugène Morel est attesté en 1895. De cela, nous en sommes sûrs. Il a pu y visiter de toutes nouvelles bibliothèques. Celle de Stepney a été ouverte en 1892 et celle de Lambeth et de Paddington en 1893. Donc il est arrivé dans des bibliothèques entièrement nouvelles. Pour ses autres voyages au Royaume-Uni, il est possible de retracer son itinéraire à travers ses propres écrits, particulièrement dans Bibliothèque, essai sur le développement des bibliothèques publiques et de la librairie des deux mondes, votre livre de chevet. Et donc j'ai recherché dans ses affirmations celles qui nous permettent de retracer ses déplacements. En page 18, il atteste, et je le recite, « J'ai choisi pour plus de détails la bibliothèque d'Édimbourg parce que je m'en suis servi. J'aurais pu choisir celle de n'importe quelle ville. J'en ai visité une douzaine à Londres, d'autres à Lichfield, Newcastle, Dunfermline, des petites, des grandes, toutes gaies, claires le jour, claires le soir, avec leurs salles de la jeunesse, leurs journaux, leurs indicateurs. Les Français peuvent visiter à Saint-Pierre-Port de Guernesey, 18 000 habitants, la bibliothèque Gil Alès, 60 000 volumes, annexée à un Artisans Institute, où on trouve non seulement des conférences, mais des jeux d'échecs, etc. » Cette dernière phrase est assez paradoxale. Les Français peuvent visiter à Saint-Pierre-Port de Guernesey une bibliothèque, mais on ne sait pas s'il y est allé ou pas. Comme il n'y a pas de plaque commémorative là-bas et que les collègues n'avaient pas d'archives, je n'ai pas la réponse à la question. Cependant, a-t-il effectué plusieurs voyages ou fait un circuit ? Ni la date de ses déplacements, ni leur succession ne nous sont clairement enseignées. Cependant, ces récits nous permettent de dessiner la cartographie suivante des villes où son passage a été attesté. Et là, vous devriez avoir une carte de l'Angleterre. À l'aide. Vous l'aurez ensuite, désolé. Donc, il dit également qu'il est allé... Donc, il annonce toutes ses librairies, nos bibliothèques où il est allé. Et on retrouve des traces de bibliothèques en Angleterre, ou au Royaume-Uni plus précisément, soit à partir de photos et de cartes postales qu'il en a vues, soit à partir de données de prêt, qui sont des livres de statistiques, généralement fournis par M. Ogle, qui est un auteur d'un livre qui s'appelle « Public Library », soit encore à partir de reports, c'est-à-dire des livrets statistiques. Donc, il dit avoir travaillé sur les reports de Clapham, Fulham, Holborn, Lambeth. Et là, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide sur ce PowerPoint, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas dans le bon ordre. Non, j'ai réussi, merci. Donc, je vais vous présenter sa cartographie. Voilà. Donc, on voit qu'il a pu faire cet itinéraire. Donc, généralement, sur toute la côte, hein, il n'a pas tellement été à l'intérieur des terres, ce qui est effectivement un peu difficile, vu la configuration géographique. Donc, Londres et ses alentours, l'Écosse et la côte sud. Donc, j'ai recherché dans les archives et j'ai retrouvé des bibliothèques qu'il a pu visiter. Celle de Lambeth, qui a été ouverte en 1887. Elle a beaucoup de particularités architecturales. Elle s'appelle la bibliothèque Minette et elle a des inspirations mauresques. Même si on a des feuilles d'acanthe et des feuilles de vigne, on s'aperçoit avec une magnifique cheminée que c'est une bibliothèque monumentale. Dans cette même ville, il a pu visiter la South Lambeth, qui a été ouverte en 1888, et également la Lambeth Central Library, inaugurée en 1893, par qui ? Par le prince des Wales. Il parle également de celle de Paddington à Queen's Park, dont vous voyez un plan de la construction. St. John, Shoreditch, qui est de Hackney Haggerston, c'est un quartier de Londres. Et là, on reconnaît les frontons à colonnes. Donc, on est toujours dans cette représentation monumentale du temple de la lecture. St. Margaret's, Stepney Tower Hamlet, à Whitechapel, qui est un quartier très défavorisé de Londres à cette époque. Et là on voit la bibliothèque en construction sous l'espèce de chantier qu'on voit dans la travée centrale. Il parle également de la bibliothèque de Westminster, dont j'ai retrouvé un plan qui devrait s'afficher. Le plan de la Lambeth. C'est dans le bon diaporama, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on a le plan de construction où on voit bien les différents espaces: Lending Library, Bookstore, Ladies Reading Room et Public Library. Et on reviendra sur ces espaces bien différenciés dans les bibliothèques anglo-saxonnes, un modèle qu'il n'a pas pu exporter. En plus de noms de quartiers, Eugène Morel cite des noms de bibliothèques, comme la bibliothèque Guildhall. Et c'est quelque chose de très important que cette bibliothèque Guildhall, puisque la première a été fondée en 1420. Je vais vous la retrouver, c'est sûr. Voilà. Et il s'agit maintenant d'une bibliothèque de référence de réputation internationale, hein, aujourd'hui, spécialisée dans l'histoire de Londres, et plus particulièrement de la City, bien que ses collections aillent au-delà. Il n'y a absolument aucune formalité à accomplir pour pouvoir consulter les collections. Il suffit de présenter une pièce d'identité, et les employés vous aident dans les recherches. Je le remets en diaporama. Et là, il s'agit d'une photo particulièrement émouvante, puisqu'elle a été prise l'année où Eugène Morel a visité la bibliothèque. Donc, on peut imaginer qu'il a vu exactement ce décor-là. Il part également de la bibliothèque de l'India Office, donc je n'ai pas retrouvé de traces. La bibliothèque Board of Education, c'est-à-dire du Conseil de l'éducation, et la Patent Office, c'est-à-dire le Bureau de la propriété intellectuelle. Leeds lui servira de terrain de prédilection, car c'est un grand amateur de statistiques, et celles de la bibliothèque de Leeds lui permettront d'étudier la diversité des publics, car il y a 14 succursales et 10 bureaux de prêt à l'époque d'Eugène Morel. Et pour lui, il s'agissait de permettre l'égalité du savoir et des chances offertes à chacun. Il a également eu l'attention retenue par des bibliothèques d'associations, Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield, Dundee. Je vous passe la liste très longue. Et à Glasgow, donc c'est toujours la Guildhall, il s'est beaucoup étendu sur la Mitchell Library, qui existe toujours. Et il n'a jamais été à Glasgow, c'est une des seules certitudes que j'ai eues. J'ai encore eu un mail ce matin d'un conservateur de bibliothèque là-bas. Et il en parle très longuement, donc c'est très 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 trompeur d'essayer de le suivre avec ce qu'il a écrit dans ses voyages. Donc il a retenu le modèle des bibliothèques de corporation. La Mitchell est une bibliothèque de corporation. Et il dit la connaître à travers d'une correspondance avec M. Francis T. Barrett, bibliothécaire à la Mitchell et bibliothécaire de cette ville. C'était à l'origine un centre de ressources documentaires destiné aux familles. Et elle abrite toujours le Family Historic Center et des archives de nombreux journaux écossais. Et surtout, dans cette photo témoigne, des photos du Blitz dont Glasgow fut victime pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous conseille particulièrement le fond de cette bibliothèque. Il évoque également la bibliothèque Townhead à Glasgow. Après ce tour d'Angleterre, des bibliothèques qu'il a visitées ou citées, je vous propose de faire pareil pour son itinéraire à travers les États-Unis. Et là, toujours grâce à Jean-Pierre Seguin, nous apprenons qu'il a effectué des missions aux États-Unis en 1926, à l'occasion du 50e anniversaire de l'American Library Association. Et là, il a mis le constat que, je le cite, « En Amérique même, la librairie publique ne fait que commencer. Ça ne fait pas seulement 10 ans. Donc il n'a pas trouvé les mêmes choses qu'en Angleterre, où, même si je vous ai montré des édifices récents, nous avons vu qu'il y avait des bibliothèques qui dataient du 15e et 16e siècle. Donc là, il est arrivé dans un contexte de bibliothèque publique complètement différent. Après le congrès, la formation du célèbre mécène Carnegie, dont nous reparlerons, lui avait offert un voyage qui lui a permis de visiter Princeton, New York, Toronto, Ann Arbor, Detroit, Chicago et Boston. Alors Boston, c'était une ville particulièrement intéressante à l'époque où il l'a visitée, car elle a eu une bibliothèque dès 1632, donc c'est un cas un peu particulier pour les États-Unis, la Boston Public Library, qui est toujours en activité. Et Boston a abrité en 1854 la première bibliothèque reconnue comme pionnière dans les public libraries. Celle de Chicago suivra. Donc voilà un plan en coupe de la New York Public Library. Et celle de Chicago a été reconstruite après le grand incendie de Chicago de 1871 et a été inaugurée en 1873. Et les livres ont été offerts en signe de solidarité par une association britannique. Et elle était destinée à la population locale et elle abrite aujourd'hui le centre culturel de Chicago. Je ne sais pas si vous en retrouvez la photo. Je m'en excuse. New York. La New York Public Library a donc été construite en 1902, donc il a pu la visiter peu de temps après son ouverture. Elle est à l'origine construite pour desservir une population d'immigrants. Et elle affiche encore aujourd'hui cette volonté d'aider à l'auto-formation et la formation professionnelle. Elle dispose en effet d'un des seuls sites internet de bibliothèque américaine entièrement traduit en espagnol et elle sert de centre de ressources pour les humanités, sciences sociales, arts vivants, histoire des Noirs américains, industrie et la technique. Et elle affirme très fort cette volonté de vouloir que les gens puissent se former seuls. À Détroit, La bibliothèque date de 1865 et M. Carnegie décida de créer une bibliothèque plus importante dont la première aile fut ouverte en 1897. À l'origine, elle travaillait en liaison avec le campus et elle est connue pour abriter aujourd'hui, en plus de collections prestigieuses, une collection destinée au baseball, sans lequel l'Amérique perdrait de son charme. À Ann Arbor, dans le Minnesota, côté de Detroit, la première public library a été recensée en 1827. Et elle est à l'origine de la Library, de la Ladies Library Association, qui a ouvert une bibliothèque et chaque adhérente à l'association des femmes a payé $3. Elle était calquée sur le modèle de celle impulsée par Benjamin Franklin, qui était appelée la Subscription Library, et elle fonctionnait sur la mise en commun de livres des utilisateurs et une cotisation qui servait à acheter de nouveaux ouvrages. Elle était liée à la Ann Arbor High School. Et après un incendie en 1904, comme c'est le même schéma que l'autre bibliothèque, M. Carnegie permit sa réouverture et la bibliothèque a déménagé et le bâtiment tente d'être rattaché à l'Université du Michigan. Voici la façade nord qui est plus monumentale, qui apparaît bien plus grande que le carte postale que je vous ai montré avant. Et l'histoire de cette bibliothèque est liée à une personnalité, puisqu'on parlait de femmes et d'Eugène Morel, Madame Lily Levin, qui s'en occupa pendant 39 ans, et son slogan était « I don't care what you read, but read, read », ce que je traduirais « Je ne veux pas savoir ce que vous lisez, mais lisez, lisez », ou « Peu m'importe ce que vous lisez, mais lisez, lisez ». Donc on reconnaît là le slogan qu'on aurait pu trouver dans les écrits d'Eugène Morel. Dans le New Jersey, la Princeton Library a été, voilà Nelly Young, a été fondée en 1909 et était liée au campus de la célèbre université. Et le bâtiment a été détruit à la fin du XXe siècle. Donc, si on suit les voyages d'Eugène Morel aux États-Unis, ce sont les pâtés noirs que j'ai fait sur la côte Est. On s'aperçoit qu'il a rayonné dans cette zone nord-est, ce qui fait que je pense que la bibliothèque de Toronto est celle de Toronto au Canada, qui a été également créé par M. Carnegie, comme on s'en doute, et qu'il a pu également visiter. Il a fait la même démarche pour parler des bibliothèques nord-américaines que les bibliothèques anglaises, donc celles où il était allé et celles dont il parle de seconde main, c'est-à-dire à travers des livres de statistiques et ce qu'on appelle aux États-Unis les House Documents, qui traitaient à son époque de 5382 bibliothèques et des rapports plus récents. Il s'est intéressé donc à deux bibliothèques, Hartford, New Haven, Bridgeport, Washington, et je vais vous faire grâce de toutes ces bibliothèques, de toutes ces villes que vous retrouverez très facilement dans son livre Public Library. Donc je vous propose de voir assez rapidement ce qu'il a retiré de ses voyages en pays anglo-saxon. Au Royaume-Uni, c'est pas le bon diaporama, désolé, au Royaume-Uni, il a déjà repéré les modes de financement, puisque les financements étaient faits par l'impôt. Donc, je vais vous retrouver là. Voilà une affiche du vote en faveur de l'impôt, pour la levée de l'impôt, puisque c'était des décisions ville par ville. Donc il y a une loi cadre de 1850, et avant cette date, les musées municipaux avaient ouvert de leurs locaux, dans le cadre d'une loi sur les musées de 1845. Donc on avait, comme ça a été évoqué ce matin, des bibliothèques dans les musées. Et Manchester fut la première ville à ouvrir une bibliothèque de prêt gratuit. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait facilement, et voici d'autres affiches contre la levée d'un impôt pour l'ouverture de bibliothèques. Donc c'est effectivement impossible à faire en France, puisqu'un de nos principes budgétaires est la non-affectation des ressources de l'impôt à une dépense, et donc ce n'est pas concevable en France de lever un impôt pour les bibliothèques. Il a également retenu le mécénat, donc on a beaucoup parlé de M. Carnegie, qui est une pratique très anglo-saxonne, puisque les Anglais et Américains du Nord sont beaucoup moins contribuables, donc beaucoup plus donateurs. Et c'est une pratique, bien sûr, que nous connaissons tous, professionnels de la culture, puisque le mécénat tente à se développer, tant pour monter des projets culturels et artistiques que pour financer des équipements ou leur entretien. la newsroom. La newsroom l'a aussi beaucoup intéressé, parce que c'est là qu'il a trouvé sa première idée sur les bibliothèques. Donc ce sont ces pièces où on lit debout la presse. Comme disait ma collègue, ça remplace le café. Et il s'est même intéressé au matériel, puisque son étude des bibliothèques a été particulièrement complète. Également la salle pour dames. Voilà, la salle pour dames, dont je ne connais absolument aucun équivalent français. La student room. Ce n'est pas la student room. La student room, c'était une pièce uniquement destinée aux étudiants. Et donc, en France, on considère que toutes les salles peuvent avoir cet usage. Des salles et des bibliothèques pour les enfants, puisqu'il a été en France à l'origine de l'ouverture avec d'autres de leurs joyeuses. Des horaires d'ouverture beaucoup plus extensibles. Et le travail des femmes, puisqu'il a constaté qu'en Angleterre, le personnel était très féminin, ce qui ne se faisait pas à l'époque en France. Et ça s'est évidemment beaucoup implanté chez nous. Et je ne pense pas que ce soit l'héritage d'Eugène Morel, mais que... puisque les bibliothécaires sont recrutés après des études de lettres, c'est une profession qui est chez nous beaucoup plus féminisée, et donc je pense que c'est là qu'on retrouve cette origine. Il a évidemment noté des points communs entre les bibliothèques des États-Unis et les bibliothèques britanniques, le libre accès, bibliothèque pour enfants, consulter la presse. Les spécificités nord-américaines autour de 1731, la Subscription Library, qui fonctionnait grâce à des cotisations, et 1933, la Public Library, avec des impôts levés, comme nous l'avons vu. Plus spécifiquement aux États-Unis, il a apprécié la présence d'une documentation pratique, la gratuité, la présence de personnel qualifié et la richesse de collection. Même si elles n'ont pas le mode de gestion, et si ce mode de gestion n'est pas transposable, on s'aperçoit qu'en France, beaucoup de bibliothèques municipales veulent encore être les héritières de ces pratiques anglo-saxonnes. Donc j'avais pensé vous parler de deux femmes qui sont ces héritières. Je ne sais pas si j'ai le temps. Très rapidement. Donc Madame Ali Payen-Puget et Madame Victorine Vérine. En fait, Eugène Morel a voulu transmettre cet héritage de Public Library, et pour cela il a été dans deux projets. Un projet de bourse qui a permis à des gens d'aller se former aux États-Unis. Et là, c'était le cas d'Aline Payen-Puget, qui a eu des bourses, dont une de l'International Education Board. Et Victorine Vérine, elle, par contre, a bénéficié d'une formation en France à l'école américaine des bibliothécaires. Entre la première et la seconde guerre mondiale, et cette bibliothèque dont Eugène Morel et Koyek ont été des directeurs, avait pour vocation de former des bibliothécaires français aux idées américaines. Et Victorine Vérine a été bénéficiée donc avec les Américains de camions pour emmener les ouvrages dans les villages reculés, et quand les Américains sont partis, elle a réussi à faire un prototype de bibliobus par la firme Renault, qui a été présentée à l'exposition coloniale de 1935, et elle a réussi à faire financer ces bibliobus et à continuer avec plus de 3000 volumes prêtés. Et je terminerai en disant que ce bibliobus a servi à l'exode pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont dû fuir dedans, le personnel de la bibliothèque, et qu'ils l'ont laissé en gare et qu'il n'a jamais été retrouvé. Donc le premier bibliobus français n'existe plus. Donc pour conclure, je dirais que nous sommes habitués à l'héritage anglo-saxon, tant anglais que tant britannique que celui des États-Unis, mais qu'il reste encore énormément de pays pauvres où cela n'est pas une réalité. Et donc, chers collègues, n'oublions pas dans nos professions également de transmettre tout cela. Merci.